France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20, des champs arides, des arbres qui dépérissent, des sols craquelés, la sécheresse est devenue un phénomène récurrent en France. Bonjour Emma Aziza.
Bonjour.
Vous êtes hydrologue, spécialiste de la sécheresse et des inondations, fondatrice du centre de recherche Mayan, qui traite notamment de l'adaptation face au changement climatique. Depuis le début de la semaine, des records de température ont été battus dans le nord et le nord-est, et dans le même temps, nous avons eu très peu d'eau, ce qui n'arrange pas la situation. Vous diriez quoi, vous, que cette situation, elle est problématique, inquiétante ou carrément catastrophique?
Elle est problématique et inquiétante, je pense, parce qu'effectivement, il y a deux choses. Il y a le fait que cette année, on bat des records historiques encore jamais relevés. On voit très bien cette semaine, cette canicule automnale qui montre qu'on est vraiment dans un nouveau système qu'on n'avait pas, puisque c'est chaque mois, chaque semaine qu'on bat des records historiques. Et puis, on fait face à 4 années successives de sécheresse historique où, à un moment donné, les sols se retrouvent dans des états de stress hydrique, c'est-à-dire qu'on est face au fait que la demande en eau est plus importante que les réserves qu'il y a. Et donc, on peut se demander, à un moment donné, finalement, quelles sont les limites de l'utilisation de l'eau aujourd'hui en France et est-ce qu'on n'atteindrait pas un point critique? On sait aujourd'hui, d'après les dernières études qui ont été menées, qu'il faut conserver entre 20 et 40% de nos eaux dans nos milieux naturels. Et aujourd'hui, on a une très mauvaise vision, finalement, de ce que l'on prélève, puisque on a une assez bonne vision de ce qui se passe dans nos rivières, de ce que l'on a à peu près au niveau de nos nappes souterraines. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de choses qui passent à côté, notamment tous les prélèvements sauvages qu'on maîtrise absolument pas et qui font basculer le fait qu'on a des nappes qui se tarissent un peu partout.
Il y en a beaucoup, des prélèvements sauvages?
Oui, il y en a partout, dans toutes nos rivières de France.
C'est prélevé par qui?
Principalement par les agriculteurs, sans vouloir stigmatiser. Après, ça peut être aussi par des particuliers. Mais c'est vrai que ce sont des choses qu'on relève partout. Il y a cette problématique de la quantité d'eau, mais surtout de la qualité, puisque moins on a de quantité, plus cette problématique se met en évidence et on voit bien des poissons morts un peu partout avec ce phénomène d'eutrophisation, c'est-à-dire qu'on a trop de nitrates, on n'a plus assez d'oxygène dans l'eau. Enfin, c'est tout un tas, si vous voulez, de problèmes par effet domino qui montrent que la situation, elle est grave, qu'il va falloir la traiter en urgence et qu'il va falloir peut-être se reposer la question, justement, de cette question de l'eau en France.
Et aujourd'hui, l'ensemble du territoire est touché ou il y a des régions qui sont encore épargnées?
Non, on a vraiment une bande au niveau central de toute la France qui traverse la France d'est en ouest. Donc une bande qui est plutôt assez haute au niveau de la vallée de la Loire et du Rhône, un petit peu le Grand Est, mais on voit très bien qu'on avait l'habitude d'avoir des températures avec du trop ou du trop peu, plutôt en région méditerranéenne, et ce sont des phénomènes qui sont en train de remonter, tout simplement parce que la France est située entre un pays plutôt sec et aride et semi-aride avec l'Espagne et la Belgique qui est plutôt humide. Et donc, en fait, nous, on est sur cette ligne de démarcation qui est en train de remonter devant nos yeux, mois par mois. Et donc, ça doit nous alerter.
Et vous avez justement été étonné par d'autres phénomènes ou d'autres constatations de sécheresse dans des parties du monde qui n'étaient pas concernées ces derniers temps?
Oui, en fait, si vous voulez, qu'est-ce qui fait qu'on a des géants de l'eau et qui fait qu'on a des pays totalement arides? Quelle est la différence sur la même latitude entre le Brésil, qui est un des grands géants de l'eau mondiaux, et la Namibie, par exemple, où on a des sols désertiques? En fait, c'est simplement ce que l'on appelle l'effet de continentalité, c'est-à-dire que c'est ce recyclage de l'eau au niveau continental, donc ce cycle de l'eau qu'on connaît, qu'on apprend tous à l'école, en fait, il se perdure à l'échelle des continents. C'est ce qui permet par exemple à l'Asie d'être alimentée par l'évaporation de l'Europe. Et donc, en fait, le Brésil lui-même est alimenté justement par ces courants marins. Et donc, on voit très bien ici qu'on a un changement. Et d'ailleurs, on le voit en France, justement, ce recyclage continental ne se fait plus. Et donc, on a des zones qui étaient humides qui deviennent absolument très sèches.
Et à l'échelle de la planète, est-ce qu'il y a moins d'eau? Est-ce que la quantité d'eau sur Terre diminue?
Non. En fait, depuis la nuit des temps, en fait, depuis que à peu près l'époque des dinosaures à aujourd'hui, on a les mêmes molécules d'eau. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais ça marche vraiment pour l'eau, c'est-à-dire qu'on la retrouve partout sous la forme de vapeur, on la retrouve sous tous les états, mais finalement, on garde les mêmes quantités d'eau approximativement. On en perd un peu dans le manteau et on en perd un peu dans les hautes atmosphères, mais voilà, on est vraiment sur le même équilibre. Le vrai problème, c'est vraiment cette mauvaise répartition de l'eau. On a 99% de l'eau qui se trouve dans nos océans. Et le seul pourcent qui nous reste, ben finalement, il se balade entre les calottes glaciaires, nos nappes souterraines. Et donc, le problème, c'est que l'usage de l'eau s'accentue. On a augmenté la population mondiale finalement par 3, alors qu'on a augmenté les prélèvements d'eau dans le monde par 6. Donc on voit bien qu'on a vraiment en fait une évolution de l'usage de l'eau qui est deux fois plus rapide, et on doit se poser la question de comment on doit utiliser l'eau, parce qu'on arrive dans un système problématique.
Je vous pose la question, comment, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous?
Alors je pense qu'il va falloir repenser complètement notre modèle. Effectivement, quels sont les grands utilisateurs de l'eau aujourd'hui? C'est l'agriculture, entre 50 et 80% de l'eau à l'échelle de la France, mais ça monte jusqu'à 93% au niveau mondial. Donc c'est le vrai problème, il va falloir trouver des solutions.
Parce mais trouver des solutions, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, il faut se passer du maïs en France parce que ça consomme trop d'eau.
Je voyais
qu'il y avait des chercheurs de l'INRA qui mènent des expérimentations pour essayer de trouver des cultures moins gourmandes en eau. Ça passe par là?
Ça peut passer par l'innovation, ça peut aussi passer par des solutions fondées sur la nature, notamment l'agroforesterie. Tout ce qui repermet le cycle de l'eau à l'échelle locale, ça peut passer aussi par l'assolement, donc le fait de changer les cultures d'une année sur l'autre et de permettre surtout à ces terres qui sont complètement appauvries par des usages intensifs de pesticides qui n'ont plus en fait d'éléments qui permettent justement à la terre de se nourrir, justement de retrouver cette biodiversité qui permet sa résilience. On sait derrière que ça a un impact direct. Donc c'est toutes ces questions-là, c'est cette question de notre usage de l'eau, parce que nous on a l'impression qu'en tant qu'Européens...
Oui, c'est ça, pas de bain mais des douches, ça, c'est,
oui,
maintenant
en fait,
c'est rentré dans la tête des gens, je pense.
Oui, sauf que la réalité c'est que l'Européen moyen consomme 150 litres d'eau, mais en réalité, l'Européen moyen consomme entre 5000 et 7000 litres d'eau par jour dans tout ce qu'il consomme, parce que notre agriculture, enfin notre alimentation a besoin d'eau. Donc dans tout ce que nous consommons, il y a de l'eau qui est cachée, et cette part d'eau qu'on appelle virtuelle, invisible, c'est 90% de l'eau qu'on consomme.
Donc changer nos habitudes, mais on vit pas comme des Amish non plus?
Non, pas du tout. Effectivement, je pense qu'il faut juste mettre beaucoup d'intelligence et de cohérence dans ce que l'on fait, et on pourra aller dans le bon chemin.
Merci beaucoup Emma Aziza, hydrologue, fondatrice du Centre de Recherche Mayenne. Vous étiez l'invitée du 5-7.